Avec ce soir l'éditorialiste Anna Cabana. Bonsoir Anna.
Bonsoir Alain.
Bonsoir
Alain Duhamel. Je propose tous les deux, avant de discuter du cas François Bayrou et de sa survie, de son futur, d'aller à l'Assemblée nationale retrouver Edgar Becquet en direct pour BFM TV, parce que depuis 9h30 ce matin est réunie la commission mixte paritaire députés et sénateurs. Ils se mettent d'accord sur le budget, Edgar.
Oui, et ça avance, lentement, mais ça avance. Les discussions devraient se terminer aux alentours de 20h, au lieu de 19h, comme c'était initialement prévu. Il faut préciser que ces discussions ont lieu depuis 9h30 ce matin, et ce n'est pas prêt d'être terminé, parce que ces discussions, elles vont reprendre dès demain matin, dès 8h30 demain, parce que les parlementaires de cette CMP, comme on l'appelle ici aux quatre colonnes, eh bien, ces discussions ne sont toujours pas terminées, c'est seulement la partie recette qui a été examinée aujourd'hui. Les parlementaires doivent encore travailler autour de la partie dépenses de ce budget 2025. Tout à l'heure, une source socialiste bien informée de ces discussions me disait qu'il y avait tout de même quelques avancées positives. Le deal du courrier de François Bayrou est 100% respecté. Il y a 2-3 bougées depuis tout à l'heure. Cette source fait référence à ces concessions que François Bayrou avait promis aux socialistes début janvier, juste après son discours de politique général, pour ne pas que le PS vote cette motion de censure. Et de toute façon, le PS a prévenu que si les concessions n'étaient pas faites, si François Bayrou ne leur accordait pas de concessions, ils voteront la motion de censure.
Edgar Becquet à l'Assemblée nationale avec Brice Petit-Fils pour BFM TV. Donc, mon cher Alain Duhamel, la question est toute simple. Que va-t-il se passer pour François Bayrou? Est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il va tenir?
Écoutez, j'ai le sentiment de vivre une période qui ressemble exactement à la fin de la 4e République et au moment où on appelait la France l'homme malade de l'Europe. Et je pense qu'on est dans une phase qui ressemble à ça. On a un déficit budgétaire insupportable et humiliant. On a les licenciements qui se multiplient, la croissance au dernier trimestre qui était de zéro. On est en pleine crise. Alors évidemment, ce qui nous est proposé, ça n'est pas reluisant ou séduisant. C'est un budget, le budget pour 2025, c'est un budget bricolé, improvisé. Et surtout, ce qui est le pire à mes yeux, c'est un budget totalement défensif et en rien réformateur, donc susceptible d'améliorer les choses. Alors c'est vrai que ça n'est pas tentant. Est-ce que pour autant, on doit le censurer? Moi, ma réponse, c'est si on est un parti de rupture, si on cherche les crises, si on a envie de changer de régime, ah ben oui, il faut censurer. Si, en revanche, on est un parti de gouvernement, si on n'a pas envie de déclencher, après une censure, après 3 mois de gouvernement Barnier, 2 mois de gouvernement Bayrou, eh ben à ce moment-là, même si on n'en a pas envie, je ne dis pas qu'il faut voter en sa faveur, mais il faut s'abstenir, c'est ça qu'on appelle un parti de gouvernement.
Alors, il y a quand même une forme de magie noire dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est que tout le monde au fond trouve que ce budget c'est du bricolage, c'est un petit budget finalement de papa, enfin qui sans vision, sans souffle, sans ambition, etc. Mais que personne n'a envie de prendre la responsabilité politique d'appuyer sur la gâchette, et c'est ça le sujet. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans des tractations, des négociations. Vous avez vu que le prix demandé aujourd'hui par les socialistes à monter, c'est-à-dire que ça coûte plus cher au gouvernement depuis cette fameuse déclaration de François Bayrou.
Depuis le mot submersion.
Le mot submersion fait que le prix à payer est plus cher. Et donc les socialistes ont monté leur prix. François Bayrou reste serein. Alors il est, ce qu'on nous raconte, hein, c'est qu'il est raisonnablement serein. Hein, c'est le mot employé par ses amis. Qu'il pense que, au fond, il y a les circonstances sont réunies pour que personne ne soit content, mais que personne n'appuie sur ce fameux bouton, et qu'il va payer plus cher, il est prêt à payer plus cher, et au fond, dans son gouvernement, même quelqu'un comme Bruno Retailleau, qui avait dit on va toucher à l'AME très fortement, c'est très important, c'est un marqueur, etc. Les socialistes, évidemment, en font une ligne rouge, et François Bayrou va toucher moins que le souhaitait Bruno Retailleau, et finalement Bruno Retailleau va convaincre la droite qu'il faut accepter, enfin que tout ça. Ce qui est intéressant, c'est le mot de Jean-Philippe Tanguy, le monsieur finance du Rassemblement National, qui a dit, François Bayrou, c'est un vieux renard, il est beaucoup plus habile que Michel Barnier.
Mais M. Tanguy a quand même dit que la possibilité d'une censure par le RN est sérieuse, elle a toujours été, et notamment il met en cause une disposition qui se trouve dans ce budget Bayrou, qui pourrait provoquer un doublement du prix de l'électricité. Je ne vais pas rentrer dans le détail,
c'est assez technique, mais donc
le RN se rappelle au bon souvenir quand même de François Bayrou.
Oui, mais alors disons que, d'une part, la question du prix de l'énergie, ça a toujours été le cheval de bataille du Rassemblement national. C'était vrai de l'essence, c'était vrai du gaz, c'est vrai de l'électricité. Donc ce n'est pas une surprise. Ils se rappellent parce que ça ne leur fait pas particulièrement plaisir au Rassemblement national que le Parti socialiste apparaisse comme aujourd'hui l'arbitre, c'est-à-dire le rôle que le Rassemblement national jouait sous Michel Barnier. Je dirais que c'est là on est dans du quotidien et dans du classique. Ceux qui ont vraiment à prendre une décision qui n'est pas facile, c'est le Parti socialiste.
Ils sont divisés, les socialistes ?
Forcément. Et quand on écoutait hier sur ce plateau la maire de Nantes,
qui
disait qu'elle était pour, et qu'on entendait certains de ceux, y compris qui participent maintenant pour les socialistes à la commission mixte paritaire, évidemment, ça n'est pas la même chose. Alors, moi, je suis tout à fait conscient du fait que pour des socialistes, qui en plus sont assez idéologues de tempérament, etc., un problème de vocabulaire, ça peut aspirer tout un ensemble de valeurs et mettre mal à l'aise, etc. Mais à côté d'une France sans budget, pour dire les choses, ça me paraît dérisoire.
Mais les socialistes disent la morale, c'est important. Et la morale est au-dessus de tout, c'est ce que disait la maire de Nantes hier.
Oui, mais cette histoire de vocabulaire, c'est un alibi, c'est un prétexte, c'est un cristallisateur. Dans la mesure où chez les socialistes, vous saviez bien qu'il y a deux tendances qui se sont opposées de façon extrêmement houleuse il y a quelques semaines de ça, au moment de ce premier tentative de pacte de non-censure. Et finalement, Olivier Faure l'a emporté parce qu'il est allé du côté du socialisme réformiste
Hollande, du socialisme de gouvernement.
Donc mais en même temps, il n'a pas réussi complètement à faire taire les voix dissonantes qui se sont exprimées de façon encore plus forte après lundi soir. Et donc là, maintenant, on est dans une histoire en fait, qui se joue. La perspective du congrès du Parti Socialiste est essentielle. C'est-à-dire que, en fait, Olivier Faure, il a besoin de savoir où se trouve le centre de gravité de son parti. Et il a regardé notre sondage.
Il n'y a pas que la morale, alors, vous
non,
dites.
Non, il n'y a pas que le. Il y a les chiffres aussi. Et le sondage Elabe.
Je
vous donne les chiffres, quand même, du sondage, parce que, en fait, dans le sondage, donc Elabe, pour BFM TV, on voit que 58% des sympathisants socialistes pensent que François Bayrou a fait le bon constat et que 78% des sympathisants du Parti Socialiste considèrent que le Parti Socialiste a raison de négocier avec le gouvernement. Ça, ce sont des chiffres qui sont importants pour Olivier Faure parce que lui, il veut gagner le Congrès.
Bon, alors en ce qui concerne Olivier Faure, en réalité, il a eu des difficultés pour une raison extrêmement simple. C'est que ceux qui sont pour la censure, ce sont les siens. C'est ceux de sa tendance, c'est ceux qui le suivent. Et que lui...
Il est à contre-courant, alors.
Il est totalement à contre-courant de ses propres troupes.
Et pourquoi alors ? Pour sauver son congrès ? Pour rester
pour demeurer leader, évidemment. Mais je dirais que moi, c'est pas du tout l'angle que je prends. Parce que bon, il y a des histoires internes au Parti Socialiste.
Toujours.
Mais attendez, ça existait déjà au 19e siècle. Il y a toujours eu des majorités, des minorités, des scissions, des recompositions. Ça a toujours été comme ça.
Oui, mais elles ont des conséquences lourdes.
Ça dépend des moments.
En ce moment,
si je peux continuer.
Avec
la, la question, c'est bon, la question, elle existe. Les divisions du Parti socialiste, ça existe. Mais le problème important, c'est pas ça. C'est pas les relations entre des dirigeants ou des relations entre les députés, entre les élus. C'est les relations entre les élus et leurs électeurs. Et les électeurs du Parti Socialiste, dans leur majorité, n'ont pas envie qu'on aggrave la crise. D'abord parce qu'ils en vivent les conséquences.
C'est le sondage.
Ils en vivent les conséquences.
C'est le sondage de 78%.
C'est une réalité. Et il y a beaucoup de... Alors, les électeurs, ils peuvent parfaitement avoir été en même temps choqués par le vocabulaire utilisé par François Bayrou... Bon, même si je suis sûr qu'ils le sont moins que les élus, mais enfin bon.
Ce que dit le sondage.
Le sondage le dit aussi.
On peut imaginer qu'ils aient été moins choqués. Bon, Mais en revanche, ils sont certainement extrêmement attentifs aux conséquences dans leur vie quotidienne de ce qui va être décidé. Parce que s'il n'y a pas de budget, il y a une certitude, c'est que la crise qui est déjà suffisamment forte maintenant ne peut que s'accroître spectaculairement.
Oui, mais pardon, il y a un autre calcul qui peut être fait. Et d'ailleurs, des élus de gauche le font. Si Bayrou tombe, eh bien Macron sera obligé à cette fois-ci de nommer un premier ministre de gauche. Il a essayé la droite avec Barnier, le centre avec Bayrou, ça ne fonctionne pas, alors, il devra essayer la gauche. Députés socialistes tiennent ce raisonnement.
Oui, alors d'abord, celui député ou pas député, ministre ou pas ministre, et journaliste ou pas journaliste, qui peut affirmer voilà ce que fera Emmanuel Macron, franchement, j'aimerais bien qu'il se présente celui-là, parce que pour prévoir ce que Emmanuel Macron peut décider, il faut vraiment être téméraire. Hein. Et on ne sait pas ce qui se passerait. Si François Bayrou saute, ça peut être une ouverture pour quelqu'un de gauche, modéré ou au moins modéré, par exemple.
Enfin, son moment.
Ou Lucie Castex, après tout, on n'a pas tenté. Bon, elle serait censurée. Mais
encore plus rapidement.
Mais ça peut être aussi une formule technique. Je dis ça au hasard, un premier président de la Cour des comptes, parce que c'est celui vers qui tout le monde se tourne en ce moment pour savoir qui sont les bons chiffres, etc.
Oui, mais ça, on sait que Emmanuel Macron n'en veut pas.
Il ne voulait pas que François Bayrou, puis finalement, il l'aurait
obligé de nommer. Pierre Moscovici, c'est les discours d'Emmanuel Macron sur Pierre Moscovici.
Anna, je vais vous poser une question, comme ça vous pourrez répondre.
Vous me posiez des questions.
Quelles étaient les relations entre Emmanuel Macron et Xavier Bertrand il y a un an et quelles sont-elles au moment où on parle?
Il y a toujours
elles
eu des discussions.
Elles étaient exécrables et elles sont devenues...
Mais Xavier Bertrand a toujours tendu la main à Emmanuel Macron. Ils ont eu des hauts et des bas, mais vous savez bien qu'ils ont toujours...
Il a toujours tendu la main d'un côté et le poing de l'autre,
en effet. Mais ils ont toujours été en relation.
Côtés, hein.
Tandis que Pierre Moscovici et Emmanuel Macron n'ont jamais trouvé un modus vivendi pour se parler. Alors, et s'entendre.
Puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, il y a une image aujourd'hui, puisque le président de la République a effectué une visite surprise. Des visites surprises. Il était à Hirson, à Vervins et à Saint-Michel en tirage aujourd'hui. Et il a pris un café à Hirson, dans l'Aisne, où il était avec le maire. Et puis ensuite, il est allé à la rencontre des habitants. Il y avait quelques médias locaux et c'était des images ensuite filmées par les riverains. Et parmi eux, Yannick. Yannick est en direct avec nous. Bonsoir Yannick. Bonsoir, vous m'entendez bien Yannick?
Je vous entends très bien.
Voilà, c'est vous que l'on voit sur la photo avec le président de la République. Vous êtes éducateur, vous avez rencontré Emmanuel Macron à Hirson aujourd'hui. Et vous avez échangé sur quel thème alors Yannick?
Sur l'Ukraine.
D'accord, sur l'Ukraine.
Sur la guerre?
Oui.
Pourquoi?
Non, pas sur la guerre, sur les financements de la guerre.
D'accord. Vous reprochiez au président d'engager trop l'économie française dans le soutien de l'Ukraine?
On va dire ça comme ça, oui.
Et alors qu'est-ce qu'il vous a répondu?
Que vous a-t-il répondu, Yannick?
Comment?
Que vous a-t-il répondu?
C'était important par rapport à M. Poutine qui, si on laissait faire, ça serait pas mieux par la suite. Après, je comprends très bien que M. le Président ait cette réponse-là. C'est important de protéger l'Europe. Mais je trouve que c'est beaucoup, beaucoup d'investissements pour l'instant peu de changements.
D'accord.
Je crois que savoir que vous avez parlé également de Bernard Arnault.
Oui, je suis un peu inquiet par rapport à la fuite de nos entrepreneurs français.
Et lui, alors, il vous a répondu quoi? Il s'inquiète également?
Il m'a expliqué qu'il était déjà imposé à 33%. Et après, il me semble qu'il pense pas. Après, c'est mon senti qu'il ne pense pas augmenter plus. Il a expliqué qu'il est très important de réindustrialiser notre pays.
D'accord. Donc, merci Yannick.
Pardon, une question. Ça vous a fait plaisir de rencontrer le président? Parce que c'est quand même pas tous les jours.
On n'y croyait pas au départ. On pensait à un canular. Mais c'est vrai que c'est une très belle personne, même si je ne suis pas particulièrement des convictions que M. Macron peut avoir. Mais je trouve que c'est une belle personne et qui s'intéresse aux Français, malgré ce qu'on puisse en dire.
Donc vous avez changé d'opinion sur lui, alors?
Peut-être pas.
J'avais pas de mauvaise opinion sur lui. Mais c'est une personne qui a eu beaucoup, beaucoup de problèmes dans sa fonction, je trouve. Il a eu beaucoup de problèmes avec des gilets jaunes, les guerres différentes. C'est vrai qu'il a... c'est une personne qui a beaucoup de charisme et je trouve que j'espère que pour lui qu'il réussira à réunir le pays.
Merci Yannick, donc à rencontrer Emmanuel Macron aujourd'hui à Hirson.
Alain Duhamel, le président qui va voir les Français comme ça sans prévenir la presse présidentielle, d'ailleurs qui s'en est ému. Pourquoi c'est pour renouer avec les Français au moment où effectivement il bat des records d'impopularité?
Vous savez que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il avait déjà fait ça à d'autres moments. Et c'est visiblement une tentative qu'il a de créer des contacts quotidiens avec des gens normaux et sans qu'il y ait de mise en scène. Alors c'est intéressant parce qu'il aime beaucoup le théâtre en général. Hein, et il aime beaucoup la mise en scène. Mais il aime aussi, de temps en temps, pouvoir parler à des gens ordinaires, de façon ordinaire. Et en leur parlant... C'est ce qu'on m'a raconté de près, en parlant comme on se parle, c'est-à-dire de façon naturelle.
Au bistrot.
Oui, sans étiquette, sans, voilà, bon.
Sans forêt de caméra.
Et ça, alors pour le coup, ça fait très, leader scandinave, hein, parce que dans les pays scandinaves, c'est comme ça que ça se passe. Le Premier ministre va prendre un verre au bistrot, les gens sont là, ils parlent avec eux, ils leur demandent comment en ce moment ils sentent les choses.
Mais vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il croit en la Renaissance, et pas seulement la Renaissance du Louvre ou de Notre-Dame, mais même en sa propre Renaissance. Emmanuel
J'étais
Macron,
sûr que pas, vous alliez dire
il
ça.
Il n'a pas du sûr. Tout renoncé bah oui. à renaître. Et c'est vraiment le sujet
ça
avec
passe
lui.
Par
C'est-à-dire
ça.
Que ça passe par aller retrouver une relation chimique et physique avec les Français.
Eh ben c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, mais pour être sincère, la question de la renaissance à venir ou impossible,
non, mais
etc.,
c'est le fantasme de renaissance qui est intéressant.
C'est extrêmement intéressant psychologiquement, c'est remarquable.
Et mais politiquement aussi.
Il n'aime pas la psychologie,
Alain. Mais
c'est 10 000 fois moins important que la question de savoir si on aura un budget.
Et un Premier ministre la semaine prochaine.
On apprend quand même.
Je suis peut-être prosaïque, hein, mais c'est comme ça que je pense.
Oui, mais on apprend quand même qu'il est plutôt d'accord avec Bernard Arnault. Eh oui.
Oui, alors ça, c'est vraiment une découverte.
Oui, bah,
ça,
donc
alors
il est
là,
en désaccord avec le budget Bayrou qui est en train de se préparer.
On le sait depuis 7 ans,
non,
quand
mais
même.
Mais attendez, c'est
il ne peut rien y faire. Il montre bien qu'il a fait beaucoup de pouvoir.
C'est normal qu'il soit d'accord, puisqu'il souhaite la même politique économique. Donc, c'est normal.
La politique pro-business, c'est sa politique à lui, c'est son ADN.
Pas seulement la politique pro-business. La politique de l'offre, c'est-à-dire le désir ou l'illusion, on verra bien, de recréer des emplois industriels,
Merci, Anna.
Etc.
Et de valoriser les entrepreneurs.
Anna,